papa.
Oui.
Ou des mamans en prison.
Sanson, solidarité avec les sans-papiers.
RESF, réseau éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3.
C'est toujours sympa de dire merde. Hein. Les tests osseux sont d'un autre âge. Il te dit merde, mon cartilage. Les tests osseux sont d'un.
Bonjour, comme tous les mercredis de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute du RESF sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, ou www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Cette émission sera rediffusée lundi matin de 7h à 8h30, enfin de 7h30 à 8h30, et très bientôt téléchargeable sur le site du RESF, hein, www.resf.info à la rubrique radio. Et pour y aller, c'est très simple, soit vous faites http://rsf.info/radio et vous profitez pour signer toutes les pétitions, dont celle qui concerne Fadil, qui est en page d'accueil du site, soit vous faites resf.info/radio et vous tomberez directement dessus. Et comme on aime bien recevoir du courrier, eh bien, écrivez-nous, soit par mail à resf.fpp@gmail.com, hein, je répète, resf.fpp@gmail.com, ou alors par courrier postal à émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, je répète, hein, Radio Fréquence Paris Pluriel, émission RESF, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Et bien sûr, comme FPP ne fait pas, n'a jamais fait et ne fera jamais de publicité, eh bien, vous pouvez nous envoyer un petit ou un gros chèque dans votre courrier postal, hein, donc je répète, qui sera adressé à Radio Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, et le courrier postal, enfin, et le chèque, lui, sera libellé à l'ordre de l'association Paris, P-A-R-I-S, hein, association P-A-R-I-S, pour programme associatif radiophonique d'intérêt social. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est la première émission déconfinée, ou plutôt en déconfinement. Oui, première émission déconfinée, ou plus ou moins en déconfinement, parce que elle est surtout présentée en direct, mais tous nos invités seront par téléphone. Tous nos invités, donc, par téléphone. Alors, on commencera par Armel Gardien, du RESF 92 Sud, qui nous parlera des Hauts-de-Seine. Ensuite, on écoutera Fadil Fifan Djoya, qui est élève au lycée horticole de Montreuil, dans le 93, et qui est emprisonné au centre de rétention de Vincennes depuis le 30 mai. Et il sera avec Hadi, sa compagne, et ils ont tous les deux été enregistrés par conférence téléphonique, hein, depuis le centre de rétention, après avoir écouté donc Fadil et sa compagne Hadi. On écoutera José Quaza du RESF 93, qui suit particulièrement Fadil. Et là, on devrait maintenant recevoir un appel de Armel, qui nous appelle de ce lointain département du 92 ou des Hauts-de-Seine, et qui, loin d'être une région ultra-périphérique, hein, se situe tout de même au-delà du périphérique. Hein. Et je crois que Armel est en ligne. Allô, Armel ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Armel, comment vas-tu ?
Bonjour Yves, bien.
Alors voilà, donc tu vas nous parler pour cette première émission déconfinée, hein, depuis de longues semaines, de ce qui s'est passé pendant le confinement dans le 92, hein, concernant les jeunes, les familles, notamment les jeunes majeurs, et surtout du déconfinement de la préfecture.
Alors, eh bien, on va dire que ce qui s'est passé n'est sans doute pas très différent de ce qui s'est passé dans les autres départements.
Ouais.
Au niveau d'RESF, on s'est principalement impliqué sur la question des jeunes dans les hôtels.
Ouais.
Alors, il faut dire que le 92 a connu une histoire un peu spécial avec le décès du président du conseil départemental, Patrick Devedjian, tout au début du confinement et ou de l'épidémie. Donc ça a un petit peu rendu difficile dans un premier temps les relations, enfin en tout cas nos demandes, parce que on a tout de suite compris que les jeunes confinés dans des hôtels, dont un certain nombre sont malheureusement des hôtels taudis, se trouvaient abandonnés par l'ASE, c'est-à-dire sans aucune explication, sans consigne, sans remise des attestations de dérogation exceptionnelle, sans masque, bien sûr, sans kit d'hygiène, sans tout ce que tu veux, bref, abandonnés. Et dans certains cas, la situation s'est sérieusement tendue, ce qui est tout à fait compréhensible. Si tu imagines, dans des chambres de 3 personnes, bon, bonjour la promiscuité, des jeunes qui sont qui n'ont rien à faire de toute la journée, avec en plus les problèmes de Wi-Fi qui n'existaient pas ou qui sont insuffisantes, pas de possibilité de laver le linge, enfin bon, la liste est longue. Donc nous, nous avions une démarche vraiment d'interpellation du conseil départemental de l'ASE et qui nous a renvoyé vers une société gestionnaire. Bon, alors, je dois quand même signaler que quelques politiques se sont bougées sur la question, notamment des députés, Elsa Foussillon, qui soutient toujours la situation des sans-papiers, mais aussi une députée de La République En Marche, Florence Provendier. Enfin bon, disons qu'il y a quand même eu une prise de conscience de choses tout à fait insupportables, qui a amené d'ailleurs des déménagements d'hôtels, enfin... Ça a été, ça c'est le premier mois, on n'en sortait pas de l'histoire des hôtels. Ensuite, bon, ça s'est un petit peu stabilisé, il y a eu toute la question, alors ça c'est plus anecdotique, mais je vais quand même le dire parce que l'ASE s'est fait une publicité à bon compte dans Le Parisien en signalant qu'elle avait distribué des tablettes à tous les jeunes sous sa responsabilité pour qu'ils puissent suivre leurs cours. Alors, je dirais mort de rire. On a interrogé tous les jeunes. Bon, ceux qui avaient des tablettes, c'était leur établissement qui avait anticipé les choses. Enfin bon, et distribution de tablettes par l'ASE, ça reste fake news.
Alors,
les tablettes sont arrivées à la fin du confinement, hein, dans quelques hôtels. Alors, plus sérieusement, mais enfin c'est quand même important aussi, si on parle des fonctionnements de la préfecture, donc nous on a fait, je dirais un peu sur le suivant l'exemple du 93, un courrier collectif d'associations adressé au préfet, au pluriel, c'est-à-dire le préfet de Nanterre et les sous-préfets. Enfin, le sous-préfet d'Antony et de Boulogne, en pointant du doigt les extrêmes difficultés de l'ensemble des populations étrangères dans l'accès aux démarches, etc. Alors, la réponse, il y a un mois qu'on a envoyé le courrier, mais on vient d'avoir une réponse. C'est pas compliqué, c'est circulé, il n'y a rien à voir.
D'accord.
Non, ça ne surprend pas. Mais tout ce qu'on peut essayer quand même de faire entrevoir comme difficultés spécifiques de perte d'apprentissage, perte de contrat jeune majeur, etc., etc., il n'y a rien à voir. Donc ça, c'est terriblement... Enfin, c'est pas décevant, on s'y attendait. Ça ne nous amène à envisager qu'une chose, c'est vraiment comment on va mobiliser... peut-être pas maintenant parce que c'est effectivement compliqué, mais on peut déjà commencer à sensibiliser toutes les assos qui peuvent envisager tous les, je dirais, les intéressés eux-mêmes, hein, les sans-papiers, jeunes et moins jeunes. Alors, pour ce qui, et puis aboutir à quelque chose de vraiment fort en septembre. Enfin, parce que là, je pense que les gens auront vraiment touché du doigt la difficulté extrême dans laquelle ils vont se trouver.
Ouais.
En tout cas, les jeunes, je ne sais pas comment on va faire. Alors, pour reprendre plus en détail, on a trois préfectures.
Ouais.
Globalement, la seule chose qui marche pour le moment, c'est la convocation par SMS de ceux qui avaient un titre à venir chercher.
Ouais.
Donc ça marche.
Ouais.
Ensuite, tout ce qui est, dépôt de nouveaux dossiers, on oublie. Ça ne rien ne les seules informations qu'il y a sur le site, c'est surveiller le site, on vous dira quand ça sera envisageable.
D'accord.
Et quand on pourra prendre des dates de planning.
Ouais.
Sur les dates de planning, j'entonne le couplet bien connu, il faut être au taquet le jour où ça paraît.
Ouais.
Et se précipiter sur une date. Alors, sachant qu'à Antony, ça ne fonctionne pas comme ça. Les nouveaux dossiers, les nouvelles demandes, c'est physique.
Ouais.
Donc, pour le moment, rien.
Ouais.
Et sur Nanterre, il n'y a aucune disposition pour le moment pour l'admission exceptionnelle au séjour.
Donc, ouais.
Après, ils disent partout, des rendez-vous seront progressivement mis en ligne à partir du 15 juin. Autrement dit, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Alors, on a vraiment des jeunes. Bon. La première chose, c'est qu'on n'a pas eu de retour sur des affaires engagées précédemment,
ouais.
Avant le confinement. Je pense à des recours gracieux.
Ouais.
Qui d'habitude ont toujours une réponse,
ouais.
Et qui n'en ont pas eu. Mmh. Alors, est-ce que ça veut dire, on fait les 4 mois et pas de réponse, vaut rejet implicite ?
Ouais.
Je ne sais pas. On n'a pas encore réattaqué parce que c'est quand même des situations sensibles.
Ouais.
Mais c'est quand même étonnant, ça.
Mmh.
Alors, pour donner un ordre de grandeur, j'ai un jeune, là, c'est pas un recours gracieux, c'est un dépôt de dossier au mois de novembre. On est en juin, il n'y a toujours pas de réponse.
Ok.
Voilà. Que ce soit Antony ou Boulogne.
D'accord.
On a des jeunes qui ont des OQTF, qui ont vécu plutôt bien le confinement, parce que du coup, ils ont été dispensés malgré... l'attestation obligatoire, la dérogatoire de déplacement.
Ouais.
Ils avaient rajouté la case démarche
administrative
au commissariat, ou ouais. Démarche, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Oui, commissariat ou justice, enfin j'ai plus...
Oui, pour contrainte de justice, enfin, de, comment ça s'appelle, administrative, enfin bon.
Ouais, convocation.
Alors,
de justice,
ce qu'on
je
a
crois.
Fait, c'est qu'on téléphonait en disant « le jeune tous ».
Ouais.
Et dans la majorité des cas,
ouais.
On l'a laissé tousser chez lui.
Ouais.
Enfin bon, c'est tellement stupide, ces assignations à résidence de 45 jours. Enfin bon, passons.
Ouais.
Donc on a un certain nombre de jeunes avec OQTF qui sont en situation complètement... hors sol, on va dire, et on ne sait pas exactement comment reprendre les choses. On va avoir tous les jeunes qui ont des échéances, c'est-à-dire l'entrée en alternance, la fin du contrat jeune majeur et tout ça, et puis les dossiers ne sont pas déposés, et là, on a une quarantaine.
Ouais. Et ça, c'est un aspect qu'on a très peu abordé pendant les émissions du confinement. C'est justement le renouvellement des contrats jeunes majeurs ou les contrats jeunes majeurs qui arrivent à expiration. On l'a abordé quand il y a des gamins qui sont retrouvés à la rue, mais pas du tout pour les questions de renouvellement.
Bah, alors, ça, c'est plus la préfecture, le contrat jeune majeur, tu vois. Mais ça veut dire que s'il n'y a pas le titre de séjour...
Ouais.
Le contrat jeune majeur n'est pas renouvelé. C'est ouais. plutôt dans ce sens que ça marche.
Mm-hmm.
Mais là, effectivement, je suis en train de me bagarrer, enfin, de me bagarrer, surtout le jeune qui se bagarre. Mais c'est un peu aussi un point de détail, mais ça pèse.
Ouais.
Nous, on a une formation très professionnelle qui s'appelle MODAP, qui est un cycle de 6 mois.
Ouais.
Mais qui n'est pas considéré comme formation qualifiante en vue du titre de séjour.
Mmh.
Autrement dit, les jeunes,
ouais.
une fois qu'ils ont fait leurs 6 mois de MODAP, ouais. il faut qu'ils embrayent sur un CAP et ouais. qu'ils aient 6 mois de CAP pour espérer déposer leur dossier.
Ouais.
Les MODAP durant 6 mois, il y a eu une première session de septembre à février
ouais.
et une deuxième session... de mars à juin.
Ouais.
Bon, la session de mars à juin n'a pas existé.
Ah, bien sûr.
Tout que c'est des jeunes peu alphabétisés. Donc là, le suivi en ligne, compliqué. Alors, ces jeunes vont reprendre en septembre.
Ouais.
Du moins, ceux qui sont mineurs.
Ouais.
Ce qui veut dire qu'ils vont reprendre, ils en reprennent pour 6 mois. Bon, ils sont au chaud, c'est très bien.
Ouais.
Mais sauf que ça retarde de 6 mois de plus la possibilité pour eux d'aller en CAP.
Ouais.
Et là, on arrive à 18 ans, tu vois, vite fait.
Ouais.
Et donc, la ZEU va faire tout ce qu'il faut pour les mettre dehors.
Ok. Ok.
Voilà. Bon, c'est il y a beaucoup, beaucoup de cas compliqués, là.
Oui, tu m'étonnes. C'est... En fait, chaque préfecture a à peu près les mêmes cas, mais qui se déclinent, qui se conjuguent un petit peu différemment, avec des modalités très différentes, mais finalement, exactement les mêmes choses.
Oui. Et quant à l'envoi des pièces complémentaires par Internet, le préfet considère que c'est pas la peine. Enfin bon, donc...
Okay. Oui.
L'idée de la dématérialisation est très compliquée, hein, parce que on ne peut pas prendre rendez-vous,
ouais.
Mais quand on doit rapporter des pièces et tout ça, bah, ça, en général, en tout cas à Boulogne, je peux te dire qu'elles sont perdues à chaque fois.
Ouais.
C'est à peu près sûr. C'est terrible.
Ok, donc c'est alors dans d'autres départements, notamment dans le 94 ou le 93, je le dis de tête, hein, j'ai pas révisé les précédentes émissions, on demande de scanner l'intégralité du dossier, de l'envoyer totalement scanné.
Oui, non mais c'est pas possible.
C'est très compliqué.
Oui, dans le 91 aussi, hein.
Ouais. Voilà.
Mais tu vois le nombre de pièces pour 5 ans de présence.
C'est je vois très bien, et c'est à peu près impossible, ou alors en ayant un très très... D'une part, ça va prendre énormément de temps, d'autre part, je ne sais pas comment on peut faire pour le... au niveau de poids, enfin de poids informatique, hein, de nombre de mégaoctets que ça représente, mais c'est pas possible, enfin, très compliqué.
C'est du temps, c'est des fichiers super lourds qu'on n'arrive pas toujours à compresser autant qu'on veut, enfin bon, non, et puis c'est quand même... remettre à l'usager
ouais.
un travail qui revient à l'administration. Il ne faut pas exagérer quand même.
Ben oui. Ben, merci beaucoup, Armelle. Peut-être tu as des choses à ajouter ou sinon on en reparle.
Ben,
mais...
Non, si les uns et les autres ont des idées de mobilisation à partager, ben, on est preneurs, évidemment.
Voilà, et ça, donc, vous pouvez envoyer des idées, si vous n'êtes pas sur les listes RESF, eh bien, à resf.fpp@gmail.com.
Voilà.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Armelle. Au revoir, et puis à très, très bientôt.
À bientôt. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, donc on est avec Armel Gardien hein, sur émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 et www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et je propose qu'on fasse une toute petite pause musicale avec Mott Hatton, hein, c'est Céline Yolo et c'est extrait de l'album Studio Cameroun.
Kamurata dunga bolo kamuranga dingi aya demete bari aya demete dua aya kamurata na tumga bolo kwaonga pemi aya demete bari aya demete dua aya kamurata na pamna ngarwe kwaonga pemi aya demete bari aya demete dua aya kamurata na kabaga bolo kwaonga kabi aya demete bari aya mate duga aya kamura tana kinga bol ku wonga dingi aya tumate bari aya tumate duga aya kamura tana dingum pumne ko wonga dingi aya tumate bari aya tumate duga aya kamura tana dingu bol ku wonga dingi aya tumate bari aya tumate duga aya kamura tana pumgon ko wonga dingi aya
Vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net pour nous suivre partout dans le monde. Et on était avec Armel Gardien du RESF 92 et on va tout de suite retrouver donc Fadil et Kadi enregistrés depuis le centre de rétention de Vincennes. Voilà, donc tout de suite, Fadil et Khadid, enregistrés donc hier mardi 9, depuis le CRA de Vincennes. Bonjour Fadil.
Bonjour Yves.
Bonjour Khadid.
Bonjour Yves.
Fadil, on a beaucoup parlé de toi ces derniers temps parce que tu es lycéen au lycée horticole à Montreuil. Tu es en France depuis plusieurs années, tu as été pris en charge par l'ASE, tu as été arrêté et tu es maintenant au centre de rétention à Vincennes.
Oui, monsieur.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours depuis le Cameroun, depuis la prise en charge par l'ASE, peut-être pourquoi tu n'as pas été régularisé, enfin tout ce qui s'est passé depuis jusqu'à maintenant.
D'accord, monsieur, je vais tout vous expliquer, monsieur. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Fifen Njoya Fadil.
Ouais.
Je suis né le 18 janvier 2001 au Cameroun.
Ouais.
J'ai quitté mon pays à cause des problèmes familiaux.
Ouais.
J'ai grandi avec ma mère, j'ai pas connu mon père.
Ouais.
Et à l'âge de 10 ans, ma mère elle m'a abandonné à ma grand-mère et elle allait se remarier. Et du coup, j'avais une enfance assez difficile.
Ouais.
Et à l'âge de 14 ans, je suis sorti du Cameroun.
Ouais.
Et je suis passé par le Nigeria, Niger, Algérie, plus le Maroc, avant d'atteindre l'Espagne.
Ouais.
Arrivé en Espagne, à l'âge de 15 ans, j'ai été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de l'Espagne.
Mm-hmm.
Ils m'ont mis dans un foyer.
Ouais.
Et vu que moi, je parlais pas la langue espagnole et tout, je fuguais pour venir en France.
Ouais.
Du coup, à l'heure insu, je suis venu en France, arrivé en France, je suis arrivé par Bordeaux.
Ouais.
Arrivé, j'ai fraudé le train jusqu'à Rennes, de Rennes je fraude encore jusqu'à je me retrouve à Brest.
Ouais.
Et à Brest, suite à un contrôle de police,
ouais.
les policiers m'ont ramené dans leurs locaux.
Ouais.
Un poste de police où ils se sont rendus compte que j'étais mineur et j'avais mon extrait de naissance.
Ouais.
Et tout. Et du coup, ils ont appelé l'aide sociale à l'enfance qui m'a placé à l'ASE.
Ouais.
Qui m'ont pris en charge.
Mmh.
Et du coup, j'étais logé dans un hôtel, j'étais nourri à l'hôtel, mais pratiquement, je faisais rien.
Ouais.
J'étais livré à moi-même et du coup, nous, on voyait nos éducateurs une fois par semaine, on essayait de discuter avec eux. Et moi, j'avais une envie de retourner à l'école.
Ouais.
Immédiatement. Mais je voulais être scolarisé, sinon j'allais perdre mes repères et tout, monsieur.
Ouais.
Du coup, avec tout ça, plus d'un an passé à l'hôtel sans scolarisation.
Ouais.
Mais de moi-même, je suis allé voir un patron là-bas et j'ai pris un stage en électricité. Du coup, j'ai fait près de 3 semaines de stage. Après ces 3 semaines de stage, vu que je n'étais pas toujours scolarisé, bon, j'ai décidé de venir rejoindre Kadi qui était déjà à Paris.
Ouais.
Et voilà, j'ai fugué de l'ASE là-bas. Normalement, là, c'est temps parce que je ne leur ai pas dit au revoir et tout.
Ouais.
Je suis quitté de là-bas, je suis venu à Paris. Et arrivé à Paris, je me suis présenté au lycée de l'horticulture de Montreuil avec une assistante qui m'accompagnait pour m'inscrire l'année 2019-2020.
Ouais.
Je me suis inscrit, j'étais scolarisé, j'allais à l'école, je suivais mon stage, tout.
Ouais.
Et après, dans tout ça, j'avais le but de monter un dossier pour présenter à la préfecture pour avoir mon titre de séjour parce que normalement, je savais qu'il me fallait un titre de séjour, j'étais déjà majeur.
Ouais.
Et du coup, là, quasiment moi, lors du confinement, on a contacté la préfecture de Bobigny qui nous a donné rendez-vous avec une juriste.
Ouais.
Et la juriste, lors de son évaluation au téléphone avec moi, elle m'a posé la question de savoir ça faisait combien de temps j'étais sur le territoire français.
Ouais.
J'ai dit ça fait presque 4 ans, madame. Elle m'a dit normalement, monsieur, il vous faut 5 ans sur le territoire avant de demander un titre de séjour.
Ouais.
Et moi, je l'ai fait comprendre que mon cas, il était à part parce que moi, je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans, j'ai été pris en charge et tout. Mais j'ai fugué, ça veut dire normalement, avant ma sortie de l'ASE à mes 18 ans, je devrais avoir un titre de séjour obligatoire.
Ouais.
Mais je ne l'ai pas eu parce que je n'ai pas fini le parcours avec l'ASE et je suis venu à Paris. Là, je suis scolarisé, j'essaie d'avoir une alternance et là, je suis le point de signer un contrat avec un patron qui est prêt aussi à me prendre. Et du coup, la dame elle m'a dit, ok, si le patron il est prêt à vous prendre en charge et tout, là, on va vous faire un titre de séjour, mais il faut que votre établissement intègre. Ils montent tous les dossiers scolaires et tout, pour que vous vous présentez à la préfecture.
Ouais.
Bon, moi, j'ai dit d'accord. Ça, c'était lors du confinement. Et le rendez-vous, il ne s'est pas fait physiquement, il s'est fait vocalement, par téléphone.
Ouais.
Et du coup, moi, j'ai raccroché la dame, on s'est dit au revoir. Et moi, dans mes projets, c'était quoi? À la fin d'année, je demande mon certificat de scolarité, tous mes documents et tout.
Ouais.
Et puis je me présentais à la préfecture, comme la dame elle me l'a dit. Et lors de la date du 28 mois, j'étais interpellé par les policiers.
Ouais.
Puis que, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais moi, je sais que ce jour-là, moi, j'ai rien fait. Ils m'ont dit, ouais, c'est un contrôle de police, vérification, ils m'ont ramené aux causes.
Ouais.
Et là, du coup, j'ai fait 24 heures de garde à vue, du 19e. Et du 19e, j'ai été violemment agressé par les policiers.
Ouais.
Parce qu'une fois, il y avait un agent de police qui n'arrêtait pas de mettre côté des salles noires, il faut que tu rentres chez toi, des trucs de ce genre. Le monsieur,
alors, il a commencé à parler. Si tu peux recommencer, parce qu'il y avait un grand bruit derrière toi.
Et il y a eu une violence policière envers moi.
Ouais.
Ils m'ont frappé. Et du coup, j'ai été ramené au centre de rétention.
Ouais.
Et sur le dossier du centre de rétention, j'ai interdiction du territoire pendant 36 mois, je dois quitter la France, tout. Mais moi, j'ai rien compris de ça, monsieur. Pourtant, je suis scolarisé, j'ai une situation, c'est juste que j'ai pas eu... En fait, avec le confinement et la pandémie, ça m'a pas permis de me présenter à la préfecture à temps.
Bien sûr.
Et moi, je me retrouve enfermé. Où je suis enfermé avec des détenus qui sortent de prison, qui ont pris des peines de 5 ans, qui sont atteints physiquement, psychologiquement, pardon. Ce qui veut dire qu'ils sont violents, quoi.
Ouais.
Du coup, moi, je suis là, moi, je viens de l'extérieur, je connais pas c'est quoi cette vie, et je suis enfermé avec eux. Comme il y a 2 jours, il y a un qui m'a violemment frappé dans la cour.
Ouais.
Bon, ça, là, des policiers s'en chargent parce que j'ai fait des plaintes et tout. Et par rapport à cette situation, monsieur, moi, je comprends pas. Je suis scolarisé, J'ai ma fiancée qui est française.
Oui, qui est avec nous au téléphone d'ailleurs.
Ouais.
Oui.
Elle est enceinte de un mois, quelques semaines, monsieur. Et là, moi, la décision que le gouvernement français veut prendre envers moi, moi, je trouve que c'est injuste, quoi.
Oui, parce nous aussi.
C'est injuste.
Oui, qu'a dit ?
Bah, moi, je trouve ça injuste, hein, monsieur, parce que franchement, je comprends pas pourquoi le ramener dans son pays juste parce qu'il a pas les documents et il a pas de casier en France.
Excuse-moi, Kadi, est-ce que tu as ton haut-parleur ou est-ce que tu utilises un kit main libre ?
Non. Le téléphone il est sur mon oreille.
Pardon ?
C'est juste un pantalon mal.
Ouais.
Ah, vous m'entendez pas bien ?
Non, c'est un téléphone.
Ouais, je disais que donc moi je comprends pas en fait pourquoi ils veulent le ramener là-bas. Il a pas de casier, il va à l'école, il suit bien ses cours. Franchement, j'arrive pas à comprendre moi non plus en fait, monsieur. Et ils peuvent pas l'emmener comme ça en fait. Hein.
Mm-hmm.
Il a rien fait de grave, il a pas tué quelqu'un, il a pas. C'est juste un jeune homme en fait.
Ouais.
Qui fait des bêtises comme tout autre jeune homme.
Ouais.
Il a droit quand même à une deuxième chance en fait.
Ouais. À ma connaissance, il a pas vraiment fait de bêtises si ce n'est.
Non. Il a pratiquement rien fait en fait.
Ouais.
Il a rien fait, c'est juste parce que ils l'ont contrôlé, il n'avait pas de documents. Ouais, il était au mauvais moment, au mauvais endroit.
Hein.
Ouais, c'est ça en fait.
Tu disais, Fadil ?
Ouais, j'étais en train de dire, à mon interpellation, je me trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. En
ouais.
fait, il s'est passé quoi ? Et dans les environs de Paris.
Ouais.
Il y a eu, je sais pas, une dame qui s'est arrachée son colis.
Mmh.
Et moi, j'étais avec la copine à Kadi. Parce
ouais.
que ce jour-là, je suis allé lui voir. Une collègue à Kadi, je suis allé me coiffer. Après, je devais rencontrer sa collègue avant de rentrer chez moi.
Ouais.
Ouais.
Et du coup, ce qui s'est passé, moi, je connaissais pas ce qui s'est passé, monsieur. Et moi, je suis en train de marcher avec la collègue à Kadi. Je trouve une chaîne à terre. Je ramasse la chaîne. Moi, je mets la chaîne autour du cou.
Ouais.
Après quelques minutes, même pas une heure après, quand je me dirige vers la gare, monsieur, veuillez vous présenter, tout, veuillez nous suivre. Ouais, ok, je vous suis. J'étais serein, parce que moi, j'ai rien fait.
Mm-hmm.
J'arrive au commissariat, on trouve une dame qui est assise, et le colis autour de mon cou.
Ouais.
On présente le colis à la dame, elle dit, ça, c'est effectivement mon colis. Et moi, on me présente à la dame, elle me reconnaît pas.
Ouais.
Par contre, c'est pas moi qui l'a agressé.
Ouais.
Moi, j'explique au chef, voilà, moi, je suis en train de monter, j'ai ramassé le colis, moi, c'est pas du salien, exactement, voilà.
Ouais.
Si ça appartient à la dame, vous pouvez lui rendre son truc.
Mm-hmm.
Et je sais pas comment la suite s'est passée, les policiers m'ont ramené directement en garde à vue. Ils m'ont dit, est-ce que tu sais que tout ça, on peut t'accuser pour recel, je sais pas quoi. Je dis, monsieur, vous allez m'accuser de recel, j'ai même pas d'argent sur moi, vous allez m'accuser de recel, pourquoi? Donc, juste, vous cherchez un motif pour me faire porter le chapeau et ça y est. Après, ils me font comprendre que, ouais, on a des vidéos sur toi, je sais pas quoi. Je dis, monsieur, présentez-moi les vidéos, monsieur. Si vous voulez m'accuser pour un tel acte, présentez-moi les vidéos. Déjà, la victime, elle dit, c'est pas moi.
Ouais.
Maintenant, vous, vos vidéos, que vous me faites croire que vous avez des vidéos, c'est juste pour que je vous fasse comprendre ce que vous voulez. Et bref, le monsieur, il a dit, ouais, c'est sûr que t'as pas de papier, faut qu'on te renvoie chez toi, nanana. Ouais. Bon, et moi, j'ai fait quoi pour me sauver? Parce que là, monsieur, c'était devenu inquiet. Il m'a dit, ouais, nous, on va te renvoyer chez toi. Moi, j'ai dit, ok, monsieur, il m'a dit pas si tu es intelligent, c'est mieux de nous dire la vérité, je sais pas quoi. Ok, moi, j'ai dit, ok, monsieur, moi, j'ai ramassé le colis. En fait, j'ai dit, oh, monsieur, ok, tout ce que vous accusez là, c'est moi, je l'ai fait. Juste parce que moi, je voulais pas qu'il me ramène ici, qu'il me libère.
Ouais.
C'était ça le truc. Mais sinon, moi, j'ai ma version à moi que j'ai dit au début. Après, le monsieur, il m'a fait changer de version.
Ouais.
Me faisant croire qu'ils vont me sortir de garde à vue, ils vont rentrer chez moi, je vais continuer ma vie.
Ouais.
Mais par contre, c'était pas ça. Ils m'ont tendu un piège.
Mm-hmm.
Après, je suis revenu sur mon truc, j'ai dit, monsieur, ouais, pourquoi maintenant vous m'amenez au centre de rétention? La dame ne me reconnaît pas, c'est pas moi, j'ai juste ramassé. Donc, juste le fait de ramasser quelque chose et de porter, ça veut dire que tu as commis un acte, un délit.
Ouais.
Le monsieur dit, ouais, je sais pas, dans le dossier, ils m'ont ramené ici, monsieur.
Voilà. Et donc tu es passé devant le juge des libertés et de la détention, et tu es passé au tribunal administratif et qui ont confirmé.
Exactement, exactement, monsieur. Là aussi, c'est un autre point. Arrivé à mon arrivée au centre de rétention, Je suis passé devant le JLD, où c'était en vidéoconférence, donc, ce qui veut dire au tribunal, je ne me suis pas présenté physiquement.
Ouais.
Et il y avait mon avocate, l'avocat de la préfecture et madame la juge.
Ouais.
Je me suis présenté, mon avocat elle m'a défendu, l'avocat de la préfecture il a parlé. Et moi, j'ai parlé là, la juge elle a décidé de me prolonger 28 jours.
Ouais.
De ces 28 jours, j'ai refait appel, je suis passé au tribunal du CA.
Ouais.
Je suis allé au CA et là j'ai encore un nouveau avocat.
Ouais.
Et un nouveau avocat qui prend le dossier fraîchement, il me dit, même à moi, il me l'a dit que le dossier, je ne l'ai pas très bien étudié, mais voilà ce qu'on va faire, On est passé, on a payé au CA, ça n'a pas marché.
Ouais.
Et ce même jour-là, à 13h30, j'avais rendez-vous au CA au tribunal administratif.
Ouais.
À mon arrivée au tribunal administratif, même ma femme, elle était là, qui a dit, c'est où je tombe encore sur un nouveau avocat, monsieur.
Ouais.
Un nouveau avocat, lui aussi me fait comprendre qu'on vient de lui faire parvenir mon dossier. Voilà. On va s'appuyer sur ton enfance, que tu as été pris par l'ASE, par l'aide sociale à l'enfance, tu arrives en France, tu es mineur. Voilà. On est passé. Mon avocat, il a parlé. L'avocat de la préfecture, il a parlé. Moi, j'attendais que monsieur le juge me donne la parole pour que j'essaye de me défendre.
Ouais.
Et à moi, on ne m'a pas donné la parole.
Mm-hmm.
On ne m'a pas donné la parole. On m'a juste dit, ouais, monsieur, rentre au CRA, on va vous délibérer. Et voilà, monsieur.
Et donc, tu as ton OQTF a été confirmé au tribunal administratif.
Il a été confirmé au tribunal administratif, exactement.
Oui, Kadi ?
Oui, c'est ça, monsieur.
Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe donc au centre de rétention à Vincennes ? Parce que je crois que c'est très violent, tu nous en as parlé tout à l'heure.
Même moi, tout à l'heure, je l'ai vu, il m'a montré des blessures parce qu'il s'est fait frapper.
Ouais.
Et ça fait la deuxième fois qu'il se fait frapper déjà.
Ouais.
Il se fait agresser comme ça par des jeunes et eux, ils font rien.
Ouais.
Ils sont là, ils font rien.
Et je crois qu'il y a une grève de la faim aussi au centre de rétention à Vincennes.
Aujourd'hui ?
Ouais,
oui,
en ce moment.
En fait, monsieur, il y a tout type de violence ici, que ce soit verbale, que ce soit physique, que ce soit... Par exemple, tu peux rester comme ça, quelqu'un se présente devant moi, ouais, donne-moi des cigarettes. Ouais, tu lui dis pourquoi je dois te donner des cigarettes, tu lui dis ouais, t'es arrivé là, ça fait 2 jours, je sais pas quoi, moi je viens de prison, j'ai fait 10 ans, et juste ça, c'est pour moi psychologiquement, je suis atteint, monsieur, parce que là, il prend quelque chose de fort, c'est pas comme s'il me le demande, il prend du fort, et dès le moment où je veux me défendre, je dis non, et on me frappe dessus, et après, moi, au centre, avec les agents de police, ça se passe correctement, je suis droit avec eux. Il y avait par exemple, si normalement le CRA il pouvait faire un rapport sur le comportement, moi je crois que de ce côté-là, j'ai rien à me reprocher.
Mmh. Mais maman, ils m'ont dit que c'est un bon élève. Et franchement, il est très bien.
Même
il est dans sa chambre.
Même monsieur, je suis apprécié par mes camarades de classe, par mes professeurs. Je travaille normalement, j'ai des bonnes notes, toujours à l'école.
Et puis je crois qu'il y a une grosse mobilisation qui se passe autour de toi pour te faire sortir de là, parce que c'est...
Oui.
Aujourd'hui, il y a eu un groupement aujourd'hui avec tous ces profs, avec ils ont fait une petite... un petit
avec des adjoints, mais de la mienne de Montreuil. Ouais, parce que je suis scolarisé à Montreuil, en fait. Et du coup, mon dossier, il n'était pas venu au maire... via mes professeurs et des associations que j'ai contactées d'ici.
Ouais.
Ils ont parvenu un dossier, mais le maire de la mairie de Montreuil, que je remercie beaucoup, il a fait une lettre de soutien pour moi.
Ouais.
Et du coup, il a pu mobiliser du monde pour se présenter au CRA, et voilà.
Ouais.
Ils étaient là aujourd'hui, tout ce monde, ils étaient là, des agents maires qui m'ont fait comprendre qu'ils sont avec moi, qu'ils ne me lâchent pas. Voilà quoi.
Kadi, toi, tu as suivi toute la mobilisation aussi et...
Oui, j'étais avec eux aujourd'hui.
Ouais.
J'étais là-bas, j'ai vu la dame qui s'occupe de lui, j'ai vu ses profs.
Ouais.
Il y avait quand même du monde quand même aujourd'hui, on était une vingtaine.
Ouais, moi je voulais venir ce matin, mais c'était impossible pour moi de me déplacer.
C'est pas grave, monsieur, déjà qu'on a juste votre soutien téléphonique, c'est déjà beaucoup mieux.
Oui, et puis et donc, en plus de tout ça, donc, Kadi, tu vas être maman, et toi, donc, Fadil, tu vas être papa.
Oui.
Donc, il faut absolument en aucun cas que tu puisses partir.
Ensuite, il va aller nulle part, monsieur, ils ne peuvent pas le ramener.
Qui décide de me ramener là ? c'est plus ma vie qui sont en train de
c'est ma vie à moi qui sont en train de
qui sont en train de foutre quoi vie en l'air la oui. vie à mon futur enfant, la vie à ma femme et ma propre vie, monsieur.
Ouais, ouais.
Et c'est pas pour une petite bêtise comme ça qui mérite en fait un jeune homme de son âge, monsieur, je suis désolée, il mérite même pas ce qui lui arrive.
On est bien d'accord et c'est pour ça qu'on va bagarrer jusqu'à ce que tu sortes.
D'accord, merci monsieur pour le soutien.
Peut-être vous avez des choses à ajouter tous les deux.
Ouais, moi je vais rajouter un petit truc.
Ouais.
Tu veux dire quoi?
Vu que la France est un pays de liberté, d'égalité, de fraternité et de loi aussi, moi je crois que franchement monsieur, la loi doit s'appliquer telle comme
elle est écrite.
Elle est écrite monsieur.
Ouais.
Parce que moi normalement je devrais déjà avoir un titre de séjour français, des papiers français.
Ouais.
Parce que j'ai été pris en charge, j'ai été reconnu par un juge mineur. Mais après, juste qu'il ne s'occupait pas de moi, moi j'ai décidé d'en faire à ma tête.
Ouais.
On va dire à cette époque, ouais, parce que j'étais naïf, ouais, j'ai décidé de faire à ma tête. Mais si par contre, je serais resté au foyer et tout, j'aurais peut-être pu avoir mes papiers à cet âge.
Ouais.
Mais ce que moi je demande, c'est la clémence du gouvernement français que j'ai pas. Moi je ne mérite pas ce qui m'arrive et que j'ai besoin de retrouver ma vie, ma femme et pouvoir continuer mes études.
Et toi, Kadi, tu avais peut-être quelque chose à ajouter aussi?
Bah, moi, je voudrais juste qu'il libère mon copain. Je peux pas. C'est pas une vie, ça, monsieur. Je suis dehors, j'ai pas de repère, je suis perdue. Et en plus, il est là-bas, le stress. Avec le stress, je suis enceinte. Le stress, tout ça, ça peut jouer sur moi, mon enfant.
Ouais.
Moi-même, je suis perdue, en fait. Je sais plus quoi faire.
Eh bien, merci beaucoup tous les deux. Et puis, j'espère qu'on pourra très bientôt se retrouver en direct dans le studio de la radio pour parler de cette histoire au passé.
D'accord, monsieur Vincent, c'est nous qui vous remercions pour votre
soutien. C'est nous qui vous remercions.
Merci, monsieur.
Merci pour votre soutien.
On se remercie beaucoup à RESF.
D'accord. Merci à la RESF et bonne soirée à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir et à bientôt.
Au revoir.
Vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, partout dans le monde. Et on écoutait Fadil et Kadi, donc Fadil qui est enfermé au centre de rétention du Ménilablo, et ça a été enregistré hier, mardi 9 juin, depuis le centre de rétention par conférence téléphonique. Et on va tout de suite retrouver José Quazza, la dame dont parle Khadi, hein, José Quazza, qui donc s'occupe maintenant de Fadil. Donc tout de suite, José Quazza, enregistré ce matin. Bonjour José Quazza du RSF 93.
Bonjour Yves, ça va bien?
Ça va et toi?
Oh ben moyen, tu verras, enfin on va en parler, mais tu verras que c'est un peu difficile en ce moment.
Oui, hein, parce que tu vas nous parler d'un jeune, donc de Fadil, hein, qu'on a écouté d'ailleurs juste avant ton appel, hein, puisqu'on l'avait joint depuis le centre de rétention de Vincennes, on l'avait joint donc mardi après-midi, et donc toi tu suis plus particulièrement son dossier, donc tu vas et tu le connais mieux. C'est...
Oui, oui, ben c'est un peu tombé comme ça sur nous par hasard. Et bon, c'est bien le fonctionnement du réseau qui a permis que ça arrive sur Montreuil, puisqu'il est scolarisé dans un lycée à Montreuil, et puis que relaie aussi tout le réseau au niveau Île-de-France, parce que effectivement, pour un certain nombre de points, on a besoin les uns les autres de s'épauler, parce que sa situation, même si elle est très simple, apparaît un peu difficile.
Mmh.
Donc il faut une grosse, grosse mobilisation autour de lui. Parce que, de toute évidence, le préfet, qui a prononcé contre lui une obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour en France de 36 mois, a outrepassé ses droits à lui, les droits de FIFEN.
Ouais.
Donc, c'est un petit peu ce que l'on voudrait arriver à démontrer. Voilà. Et ça, c'est pas facile.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur, enfin, d'abord sur ses droits et puis en plus ensuite sur ce qui a été dit dans cette interview assez longue, hein, et de Fadil et de Khadi, la compagne de Fadil.
Alors Fadil Fifen, c'est un jeune qui est arrivé en France. Il avait 15 ans et demi,
ouais.
Trois quarts. Il est arrivé en France, donc en région Bretagne. Bon, je passe un peu les détails de son de sa, son voyage, parce qu'il le raconte très très bien dans son interview, donc c'est pas la peine de revenir là-dessus.
Ouais.
Il a été pris en charge, donc avant l'âge de 16 ans, par l'aide sociale à l'enfance à Brest.
Ouais.
Il a été scolarisé très très tardivement par rapport à ce moment-là, même s'il est passé devant le centre d'orientation et d'information, le CIO du local, est orienté vers un CAP de qu'est-ce que c'était, électricité, ouais, dans un lycée de Quimper. Ça s'est fait très tardivement par rapport à son sa prise en charge par l'ASE.
Ouais.
Tant et si bien que il a eu envie de rejoindre sa sa petite copine qui était elle en France,
ouais,
À Paris, et il a décidé de changer d'orientation scolaire.
Ouais.
Et donc, il s'est présenté au lycée Horticoz. Ça, il le raconte très bien aussi. Et c'est pour ça que, voilà, il a suivi une scolarité normale.
Ouais.
Objectivement, il est arrivé en France avant l'âge de 16 ans.
Ouais.
Il a maintenant 19 ans, certes, mais il est régularisable, ce que l'on appelle de plein droit. Mais ça, c'est même pas circulaire Valls. C'est le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est-à-dire, ouais, c'est la loi-loi. Hein, c'est pas une circulaire d'application postérieure. Moyennant quoi, comme il n'a pas déposé de dossier à la préfecture, parce qu'à la préfecture, aussi bien à Bobigny qu'à Paris, parce que lui, il dépendra de Paris, c'est très difficile d'obtenir un rendez-vous, et bien il se retrouve donc coincé. Voilà. Et à la police, quand il a été arrêté, il n'a pas pu présenter de titre de séjour. Or, il est majeur, donc sans papier. Voilà.
Et ça, il raconte très bien qu'en fait, il devait déposer son dossier, et c'était, mais donc avec tous les problèmes qu'il y a eu, puis avec le confinement, il n'a pas pu
le faire. Covid aussi, il y a eu le Covid, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il est né le 18 janvier 2001, donc il a maintenant, ben, puisqu'on est au mois de juin, il a 19 ans et 5 mois. Mmh. Et théoriquement, il faut déposer son dossier entre 18 et 19 ans.
Ouais.
Bon, pour les gens à l'ASE et tout ça, l'ASE devrait les aider à ça. Lui n'est plus sous ASE, hein, de toute façon, puisqu'il est majeur. Donc, il est seul, si tu veux. Il était seul à devoir faire ses démarches. Bon, maintenant, c'est évident qu'on va l'aider. Hein.
Ouais.
Mais d'abord, nous, on veut le faire sortir du centre de rétention. Et il a été donc mis au centre de rétention par une ordonnance du 30 mai, c'est ça, pour 28 jours. Il a contesté, c'est moi là que j'ai été avertie, il a contesté le jugement du JLD et il est passé donc en appel le 3. Et c'est à partir de là que moi je suis intervenue en tant que réseau pour lui, avec des défections d'avocats lamentables, des avocats de permanence aussi bien au CRA que au JLD sont, bon voilà, limite. Et donc, il a été maintenu en JLD, donc ça veut dire que là, sauf victoire, il ne sort pas avant le... On n'a qu'à compter à partir du 28 juin.
Mmh.
Mais bien sûr, OTA, il va repasser, on a un avocat qui va contester sa mise en détention, son OQTF, et son interdiction de retour, bien sûr, tout à la fois. Mais ce qu'on voudrait, c'est le faire sortir avant.
Ouais, bien sûr.
Pour ne pas qu'il déprime, pour ne pas qu'il soit agressé au centre de rétention, ben, même si les gardiens ont un peu de bienveillance à son égard, parce qu'il est très sympathique, et que tous les gardiens ne sont pas non plus des monstres, il est agressé régulièrement par des détenus de droit commun qui sont maintenant en centre de rétention. J'ai découvert que la double peine, ça existe à nouveau.
Ouais.
Et voilà. Et il n'est pas protégé, hein, dans ses bagarres. Donc maintenant, il n'ose plus sortir de sa chambre. Donc c'est un peu embêtant.
Ouais. En fait, apparemment, on dit des détenus, c'est surtout un détenu qui est particulièrement agressif, quoi.
Oui. Un détenu. Mais enfin, ça fait quand même déjà plusieurs agressions dont il a été victime. Et donc voilà. Moi, je l'ai vu dimanche, on est allé au centre de rétention hier en délégation avec des élus de Montreuil et on a eu confirmation qu'il y avait encore une agression depuis dimanche.
Mm-mm.
Donc, c'est un petit peu récurrent pour lui, donc il n'ose plus sortir de sa chambre. Ouais. Bon, je lui ai filé un gros bouquin, donc il en a pour un moment.
Ouais.
Voilà, pour au moins l'occuper.
Et il y a toute une mobilisation qui se monte autour. Enfin, qui, toute une
Alors, il y a une mobilisation politique, il y a une mobilisation humaine, enfin citoyenne, assez conséquente, oui. Et puis, il y a une pétition qui circule, une pétition du réseau, enfin, émise par le réseau. Il faut signer, la plupart des gens signent d'ailleurs, mettre des commentaires, bon. Et puis, il y a une avocate très compétente, donc on espère que tout. Enfin, on espère gagner, quoi. Mais rien n'est sûr, hein.
Donc, de toute façon, dans ces cas-là, jamais.
Parce que nous avons affaire à Didier Lallement, le préfet de police de Paris.
Ouais.
C'est ça notre interlocuteur. Mm-mm. Voilà. Et donc, c'est un peu difficile. Alors, on a des appuis de nos députés, de nos sénateurs, de nos maires et de nos élus. Le cabinet du préfet Lallement a été contacté. Le ministre Castaner a été contacté. Bon, voilà, on tape partout. Moi-même, j'ai contacté Madame Pécresse.
Ouais.
Oui, pourquoi pas, hein.
Bah oui, bien sûr.
C'est un jeune, légalement, enfin, de par la loi, il devrait être régularisé au titre du séjour en France. En plus, il va être papa d'un enfant français.
Ouais.
Donc, il y a tout pour lui, hein.
Absolument.
Si on veut bien appliquer la loi.
Puis il y a aussi une mobilisation, et pourtant ça en ce moment, compte tenu du retour en classe, du déconfinement, c'est une mobilisation du lycée. Apparemment, il y a des camarades qui sont venus hier, et des profs qui sont venus hier au rassemblement.
Oui, absolument. Et puis bon, il a son professeur principal qui lui envoie des SMS régulièrement, l'approviseur de son lycée qui lui envoie des SMS, ses copains et copines qui lui envoient des SMS. Il est effectivement très soutenu. Enfin, c'est une chance pour lui, hein, mais enfin, d'une certaine façon. Et il y a une énorme mobilisation, mais il y a un contexte aussi très particulier, un politique très particulier qui fait que à la sortie du confinement, là, on a un peu l'impression que et la police et les préfets font un peu n'importe quoi. Enfin bon, pour lui, c'est évident, mais pour d'autres cas, c'est évident aussi. Donc, nous, il faut qu'on mette, par une mobilisation forte, il faut qu'on mette le holà à cette politique. Voilà.
On est bien d'accord.
Et de la police et des préfectures.
Bon, bah, écoute, je crois que c'est une affaire à suivre. Tu as peut-être des choses à ajouter
On
en reparle peut-être la semaine prochaine.
Il faut absolument que les gens signent la pétition ou s'ils connaissent des députés. Les interpelle, en disant, il s'appelle Fadil Fifen Joya.
Ok.
Voilà. Et puis, merci beaucoup en tout cas.
Eh bien, merci beaucoup José, donc José Quaza, hein, RESF 93.
Oui, et merci à tous d'avoir écouté. Aussi.
Et puis, donc,
merci à toi Yves, au revoir.
Ben, reste quoi. Au revoir, et puis à très très bientôt. Salut.
À bientôt.
Alors vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et on vient donc d'écouter José Quaza, hein, du RESF 93, qui nous parlait donc de Fadil, surtout de Fadil, et aussi de Khadi, sa compagne. Et vous trouverez la pétition pour les soutenir. Donc vous trouvez la pétition pour les soutenir, ainsi que les adresses, les coordonnées de toutes les personnes, de tous les décideurs au ministère, à la préfecture, en page d'accueil du RESF, hein, et surtout signer cette pétition. Ce serait une très très bonne chose, hein. Donc je rappelle l'adresse du site http://resf.info. Et avant de nous dire au revoir, eh bien je propose qu'on écoute une petite Marseillaise par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli.
Thank you.
toujours à l'écoute du RSF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et on vient d'écouter donc une petite Marseillaise, enfin la Marseillaise, interprétée par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Alors aujourd'hui, eh bien, pas vraiment d'agenda, l'agenda reprendra peut-être un petit peu plus tard, mais quand même, donc un appel à manifester samedi 20 juin, une manifestation organisée par la Marche des Solidarités. Si le pouvoir n'entend pas, il faut crier plus fort. Alors voici l'appel lancé par la Marche. Donc les sans-papiers et migrantes ont été en première ligne pendant la crise, exploités dans les pires des conditions, dans les secteurs qui ont continué à tourner, nettoyage, livraison, bâtiment, service à la personne, restauration, ou perdant leur emploi sans chômage partiel, retenus dans les CRA, vivant dans la rue ou hébergés dans des hébergements souvent précaires et insalubres. Le refus du pouvoir de régulariser tous les sans-papiers pour leur donner accès aux droits et conditions permettant de lutter contre la propagation du virus, de fermer les centres de rétention et de réquisitionner bâtiments et logements vides pour loger toutes les sans-abri et mal logés a mis en évidence l'hypocrisie des discours sanitaires. Avec sa volonté d'ignorer leur contribution au travail qui a permis pendant cette période de crise sanitaire et permet tous les jours à ce pays de fonctionner, il laisse volontairement les sans-papiers exploités sans droit dans une situation d'inégalité et d'injustice totale. La crise a pourtant montré que ces mesures de justice et d'égalité étaient aussi des mesures indispensables pour construire une société plus solidaire, plus sûre, y compris sur le plan sanitaire. Alors le 30 mai à Paris et dans plus d'une dizaine de villes, des milliers de sans-papiers ont été en première ligne dans la lutte contre les atteintes aux libertés au nom de l'urgence sanitaire. Ils ou elles ont bravé l'interdiction de manifester aux côtés des soutiens pour demander leur régularisation. Mais aucune réponse n'est venue, alors si le pouvoir n'entend pas, il faut crier plus fort. C'est pour cette raison que nous appelons à manifester plus nombreuses et plus nombreux le 20 juin dans tous les pays. Pour la régularisation de toutes les sans-papiers et migrantes, la fermeture des CRA et le logement pour toutes, pour l'égalité des droits et la fin des discriminations pour la liberté. Voilà, notre émission est à présent terminée, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission RESF déconfinée. Et merci Maya. Ah, il y a une chose bizarre. Et donc merci Maya à la technique. Et je vous dis donc à mercredi prochain. Au revoir. Et apparemment, il y a un tout petit problème avec le fichier du jingle qui ne fonctionne pas. Mais si, Maya me dit que ça fonctionne. Donc, au revoir et à la semaine prochaine.
OQTF, obligation à quitter le territoire français.
Attendez, RESF, sincèrement, c'est un mouvement qui tente, c'est quasi un mouvement quasi terroriste, parce qu'ils sont là pour faire des coups de pub qui poussent les gens à foutre le feu un peu partout.
RESF, réseau éducation sans frontières, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.